Spinoza, Éthique, livre 2, proposition 42, à la fin. Proposition 42. La connaissance du deuxième genre et du troisième, non celle du premier genre, nous enseigne à distinguer le vrai du faux. Démonstration. Cette proposition est évidente par elle-même. Qui sait distinguer en effet entre le vrai et le faux, doit avoir du vrai et du faux une idée adéquate, c'est-à-dire, scoli 2 de la proposition 40, connaître le vrai et le faux par le deuxième genre de connaissance ou le troisième. Proposition 43. Qui a une idée vraie, sait en même temps qu'il a une idée vraie et ne peut douter de la vérité de sa connaissance. Démonstration. L'idée vraie en nous est celle qui est adéquate en Dieu en tant qu'il s'explique par la nature de l'âme humaine. Corollaire de la proposition 11. Supposons donc qu'une idée adéquate A soit donnée en Dieu en tant qu'il s'explique par la nature de l'âme humaine. De cette idée doit être nécessairement donnée en Dieu une idée qui se rapporte à Dieu de la même manière que l'idée A. Proposition 20, dont la démonstration est universelle. Mais l'idée A est supposée se rapporter à Dieu en tant qu'il s'explique par la nature de l'âme humaine. Donc, l'idée de l'idée A doit aussi appartenir à Dieu de la même manière, c'est-à-dire, corollaire de la proposition 11, que cette idée adéquate de l'idée A sera dans la même âme qui a l'idée adéquate A. Qui donc a une idée adéquate, c'est-à-dire proposition 34, qui connaît une chose vraiment, doit en même temps avoir de sa connaissance une idée adéquate, en d'autres termes, comme il est évident de soi, une connaissance vraie. C'est QFD. Scoli. J'ai expliqué dans le scoli de la proposition 21 ce qu'est l'idée de l'idée. Mais il faut observer que la proposition précédente est assez évidente par elle-même. Car nul ayant une idée vraie n'ignore que l'idée vraie enveloppe la plus haute certitude. Avoir une idée vraie, en effet, ne signifie rien, sinon connaître une chose parfaitement ou le mieux possible. Et certes, personne ne peut en douter, à moins de croire que l'idée est quelque chose de muet, comme une peinture sur un panneau, et non un mode de pensée, savoir, l'acte même de connaître, et, je le demande, qui peut savoir qu'il connaît une chose s'il ne connaît auparavant la chose? C'est-à-dire, qui peut savoir qu'il est certain d'une chose s'il n'est auparavant certain de cette chose? D'autre part, que peut-il y avoir de plus clair et de plus certain que l'idée vraie qui soit norme de vérité? Certes, comme la lumière se fait connaître elle-même et fait connaître les ténèbres, la vérité est norme d'elle-même et du faux. Par là, je crois avoir répondu aux questions suivantes, savoir si une idée vraie, en tant qu'elle est dite seulement s'accorder avec ce dont elle est l'idée, se distingue d'une fausse. Une idée vraie ne contient donc aucune réalité ou perfection de plus qu'une fausse, puisqu'elle se distingue seulement par une dénomination extrinsèque. Et conséquemment, un homme qui a des idées vraies ne l'emporte en rien sur celui qui en a seulement de fausses. Puis, d'où vient que les hommes ont des idées fausses? Et enfin, d'où quelqu'un peut-il savoir avec certitude qu'il a des idées qui conviennent avec leurs objets. À ces questions, dis-je, je pense avoir déjà répondu. Quant à la différence, en effet, qui est entre l'idée vraie et la fausse, il est établi par la proposition 35 qu'il y a entre elles deux la même relation qu'entre l'être et le non-être. Je montre, d'autre part, très clairement, les causes de la fausseté depuis la proposition 19 jusqu'à la proposition 35, avec son scolie. Par là, apparaît aussi quelle différence est entre un homme qui a des idées vraies et un homme qui n'en a que de fausses. Quant à la dernière question, enfin, d'où un homme peut savoir qu'il a une idée qui convient avec son objet, je viens de montrer suffisamment et surabondamment que cela provient uniquement de ce qu'il a une idée qui convient avec son objet, c'est-à-dire de ce que la vérité est norme d'elle-même. Ajoutez que notre âme, en tant qu'elle perçoit les choses vraiment, est une partie de l'entendement infini de Dieu, corollaire de la proposition 11, et qu'il est donc aussi nécessaire que les idées claires et distinctes de l'âme soient vraies que cela est nécessaire des idées de Dieu. Proposition 44. Il est de la nature de la raison de considérer les choses non comme contingentes, mais comme nécessaires. Démonstration. Il est de la nature de la raison de percevoir les choses vraiment. Proposition 41. Savoir, axiome 6, partie 1, comme elles sont en elles-mêmes, c'est-à-dire, proposition 29, partie 1, non comme contingentes, mais comme nécessaires. C'est QFD. Corollaire 1. Il suit de là que la seule imagination peut faire que nous considérions les choses tant relativement au passé que relativement au futur comme contingentes. Scoli. J'expliquerai ici brièvement dans quelles conditions cela a lieu. Nous avons montré ci-dessus, proposition 17 avec son corollaire, que l'âme imagine toujours les choses comme lui étant présentes, bien qu'elles n'existent pas, à moins qu'il ne se rencontre des causes qui excluent leur existence présente. De plus, nous avons montré, proposition 18, que si une fois le corps humain a été affecté simultanément par deux corps extérieurs, sitôt que l'âme, plus tard, imaginera l'un d'eux, il lui souviendra aussi de l'autre, c'est-à-dire qu'elle les considérera comme lui étant présents l'un et l'autre, à moins qu'il ne se rencontre des causes qui excluent leur existence présente. Nul ne doute d'ailleurs que nous n'imaginions aussi le temps, et cela parce que nous imaginons des corps se mouvant les uns plus lentement ou plus vite que les autres, ou avec une vitesse égale. Supposons maintenant un enfant qui, hier, une première fois, aura vu le matin Pierre, à midi Paul et le soir Siméon, et aujourd'hui, de nouveau, a vu Pierre le matin. Il est évident, par la proposition 18, que, sitôt qu'il voit la lumière du matin, il imaginera le soleil parcourant la même partie du ciel qu'il aura vue la veille. En d'autres termes, imaginera le jour entier et Pierre avec le matin, Paul à midi et Siméon avec le soir. C'est-à-dire qu'il imaginera l'existence de Paul et de Siméon avec une relation au temps futur. Au contraire, s'il voit Siméon le soir, il rapportera Paul et Pierre au temps passé, les imaginant en même temps que le passé. Et cette imagination sera constante, d'autant plus qu'il les aura vus plus souvent dans le même ordre. S'il arrive, une fois qu'un autre soir, à la place de Siméon, il voit Jacob, alors au matin suivant, il imaginera en même temps que le soir, tantôt Siméon, tantôt Jacob, mais non tous les deux ensemble. Car on suppose qu'il a vu, le soir, l'un des deux seulement, et non les deux à la fois. Son imagination sera donc flottante, et il imaginera en même temps que le soir futur, tantôt l'un, tantôt l'autre, c'est-à-dire considérera l'un et l'autre non comme devant être de façon certaine, mais comme des futurs contingents. Ce flottement de l'imagination sera le même si les choses imaginées sont des choses que nous considérons avec une relation au temps passé ou au présent. Et conséquemment, nous imaginerons comme contingentes les choses rapportées tant au présent qu'au temps passé et au futur. Corollaire 2. Il est de la nature de la raison de percevoir les choses comme possédant une certaine sorte d'éternité. Démonstration. Il est de la nature de la raison, en effet, de considérer les choses comme nécessaires et non comme contingentes, proposition précédente. Et elle perçoit cette nécessité des choses vraiment, proposition 41, c'est-à-dire comme elle est en elle-même, axiome 6, partie 1. Mais, proposition 16, partie 1, cette nécessité des choses est la nécessité même de la nature éternelle de Dieu. Il est donc de la nature de la raison de considérer les choses comme possédant cette sorte d'éternité. Ajoutez que les principes de la raison sont des notions, proposition 38, qui expliquent ce qui est commun à toutes choses et, proposition 37, n'expliquent l'essence d'aucune chose singulière, qui en conséquence doivent être conçues sans aucune relation au temps et comme possédant une certaine sorte d'éternité. CQFD. Proposition 45. Chaque idée d'un corps quelconque ou d'une chose singulière existant en acte enveloppe nécessairement l'essence éternelle et infinie de Dieu. Démonstration. L'idée d'une chose singulière existant en acte enveloppe nécessairement tant l'essence que l'existence de la chose elle-même. Corollaire de la proposition 8. Et les choses singulières ne peuvent être conçues sans Dieu. Proposition 15, partie 1. Mais, puisque, proposition 6, elles ont Dieu pour cause en tant qu'on le considère sous l'attribut dont les choses elles-mêmes sont des modes, leurs idées doivent nécessairement, axiome 4, partie 1, envelopper le concept de cet attribut, c'est-à-dire, définition 6, partie 1, l'essence éternelle et infinie de Dieu. CQFD. Scoli. Je n'entends pas ici par existence la durée, c'est-à-dire l'existence en tant qu'elle est conçue abstraitement et comme une certaine sorte de quantité. Je parle de la nature même de l'existence, laquelle est attribuée aux choses singulières, pour cette raison qu'une infinité de choses suivent de la nécessité éternelle de Dieu en une infinité de modes, voir proposition 16, partie 1. Je parle, dis-je, de l'existence même des choses singulières en tant qu'elles sont en Dieu. Car, bien que chacune soit déterminée à exister d'une certaine manière par une autre chose singulière, la force cependant par laquelle chacune persévère dans l'existence suit de la nécessité éternelle de la nature de Dieu. Sur ce point, voir corollaire de la proposition 24, partie 1. Proposition 46. La connaissance de l'essence éternelle et infinie de Dieu qu'enveloppe chaque idée est adéquate et parfaite. Démonstration. la démonstration de la proposition précédente est universelle et que l'on considère une chose comme une partie ou comme un tout, son idée, que ce soit celle du tout ou celle de la partie, enveloppera, proposition précédente, l'essence éternelle et infinie de Dieu. Donc, ce qui donne la connaissance de l'essence éternelle et infinie de Dieu est commun à tous et est pareillement dans la partie et dans le tout. Et par suite, proposition 38, cette connaissance sera adéquate. C'est QFD. Proposition 47. L'âme humaine a une connaissance adéquate de l'essence éternelle et infinie de Dieu. Démonstration. L'âme humaine a des idées, proposition 22, par lesquelles elle se perçoit elle-même, proposition 23, perçoit son propre corps, proposition 19, et, corollaire de la proposition 16 et proposition 17, les corps extérieurs existant en acte. Par suite, elle a, proposition 45 et 46, une connaissance adéquate de l'essence éternelle et infinie de Dieu. C'est QFD. Scoli. Nous voyons par là que l'essence infinie de Dieu et son éternité sont connus de tous. Puisque, d'autre part, tout est en Dieu et se conçoit par Dieu, il s'ensuit que nous pouvons déduire de cette connaissance un très grand nombre de conséquences que nous connaîtrons adéquatement, et former ainsi ce troisième genre de connaissance dont nous avons parlé dans le Scoli 2 de la proposition 40, et de l'excellence et de l'utilité duquel il y aura lieu de parler dans la cinquième partie. Que si, d'ailleurs, les hommes n'ont pas de Dieu une connaissance aussi claire que des notions communes, cela provient de ce qu'ils ne peuvent imaginer Dieu comme ils imaginent les corps. Et on joint le nom de Dieu aux images des choses qu'ils ont accoutumé de voir, et cela, les hommes ne peuvent guère l'éviter, affectés comme ils le sont continuellement par les corps extérieurs. Et, effectivement, la plupart des erreurs consistent en cela seul que nous n'appliquons pas les noms aux choses correctement. Quand quelqu'un dit que les lignes menées du centre du cercle à la circonférence sont inégales, certes, il entend alors par cercle autre chose que ne font les mathématiciens. De même, quand les hommes commettent une erreur dans le calcul, ils ont dans la pensée d'autres nombres que ceux qu'ils ont sur le papier. C'est pourquoi, certes, si l'on a égard à leur pensée, ils ne commettent point d'erreur. Ils semblent en commettre une cependant, parce que nous croyons qu'ils ont dans la pensée les nombres qui sont sur le papier. S'il n'en était pas ainsi, nous ne croirions pas qu'ils commettent aucune erreur. De même qu'ayant entendu quelqu'un crier naguère que sa maison s'était envolée sur la poule du voisin, je n'ai pas cru qu'il fût dans l'erreur parce que sa pensée me semblait assez claire. Et de là naissent la plupart des controverses, à savoir de ce que les hommes n'expriment pas correctement leur pensée, ou de ce qu'ils interprètent mal la pensée d'autrui. En réalité, tandis qu'ils se contredisent le plus, ils pensent la même chose, ou pensent à des choses différentes, de sorte que ce qu'on croit être une erreur ou une obscurité en autrui n'en est pas une. Proposition 48. Il n'y a dans l'âme aucune volonté absolue ou libre. Mais l'âme est déterminée à vouloir ceci ou cela par une cause qui est aussi déterminée par une autre, et cette autre l'est à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. Démonstration. L'âme est un certain mode déterminé du penser. Proposition 11. Et ainsi, corollaire 2 de la proposition 17, partie 1, ne peut être une cause libre. Autrement dit, ne peut avoir une faculté absolue de vouloir ou de non vouloir. Mais elle doit être déterminée à vouloir ceci ou cela par une cause. Proposition 28, partie 1. Laquelle est aussi déterminée par une autre, et cette autre l'est à son tour par une autre, etc. C'est QFD. Scoli. On démontre de la même manière qu'il n'y a dans l'âme aucune faculté absolue de connaître, de désirer, d'aimer, etc. D'où suit que ces facultés et autres semblables ou bien sont de pure fiction ou ne sont rien que des êtres métaphysiques, c'est-à-dire des universaux, comme nous avons coutume d'en former des êtres particuliers. Ainsi, l'entendement et la volonté soutiennent avec telle et telle idée ou telle et telle volition le même rapport que la pierréité avec telle ou telle pierre et l'homme avec Pierre et Paul. Quant à la cause pourquoi les hommes croient qu'ils sont libres, nous l'avons expliqué dans l'appendice de la première partie. Mais avant de poursuivre, il convient de noter ici la faculté par où l'âme affirme ou nie quelle chose est vraie ou fausse, mais non le désir par où l'âme appète les choses ou les a en aversion. Et après avoir démontré que ces facultés sont des notions générales, qui ne se distinguent pas des choses singulières desquelles nous les formons, il y a lieu de rechercher si les volitions elles-mêmes sont quelque chose en dehors des idées mêmes des choses. Il y a lieu, dis-je, de rechercher s'il est donné dans l'âme une autre affirmation ou une autre négation que celle qu'enveloppe l'idée en tant qu'elle est idée. Et à ce sujet, l'on verra la proposition suivante et aussi la définition 3, partie 2, pour éviter qu'on ne pense à des peintures. Car je n'entends point par idée des images comme celles qui se forment au fond de l'œil ou, si l'on veut, au milieu du cerveau, mais des conceptions de la pensée. Proposition 49. Il n'y a dans l'âme aucune volition, c'est-à-dire aucune affirmation et aucune négation en dehors de celle qu'enveloppe l'idée en tant qu'elle est idée. Démonstration. Il n'y a dans l'âme, proposition précédente, aucune faculté absolue de vouloir et de non vouloir, mais seulement des volitions singulières, c'est-à-dire telle et telle affirmation et telle négation. Concevons donc quelques volitions singulières, soit un mode de pensée par lequel l'âme affirme que les trois angles d'un triangle égale deux doigts. Cette affirmation enveloppe le concept ou l'idée du triangle, c'est-à-dire ne peut être conçue sans l'idée du triangle. Car c'est tout un de dire que A doit envelopper le concept B ou que A ne peut se concevoir sans B. Et une telle affirmation, axiome 3, aussi ne peut être sans l'idée du triangle. De plus, cette idée du triangle doit envelopper cette même affirmation, à savoir que ces trois angles égalent deux droits. Donc, inversement, cette idée du triangle ne peut ni être conçue sans cette affirmation. Et ainsi, définition 2, cette affirmation appartient à l'essence de l'idée du triangle et n'est rien en dehors d'elle. Et ce que nous avons dit de cette volition, puisque nous l'avons prise ad libitum, on devra le dire aussi d'une volition quelconque, à savoir qu'elle n'est rien en dehors de l'idée. C'est QFD. Corollaire. La volonté et l'entendement sont une seule et même chose. Démonstration. La volonté et l'entendement ne sont rien en dehors des volitions et des idées singulières. Proposition 48 avec son scoli. Or, une volition singulière et une idée singulière sont une seule et même chose. Proposition précédente. Donc, la volonté et l'entendement sont une seule et même chose. C'est QFD. Scoli. Nous avons ainsi supprimé la cause communément admise de l'erreur. Précédemment, d'ailleurs, nous avons montré que la fausseté consiste dans la seule privation qu'enveloppe les idées mutilées et confuses. C'est pourquoi l'idée fausse, en tant qu'elle est fausse, n'enveloppe pas la certitude. Quand donc nous disons qu'un homme trouve le repos dans le faux et ne conçoit pas de doute à son sujet, nous ne disons pas pour cela qu'il est certain, mais seulement qu'il ne doute pas, ou qu'il trouve le repos dans les idées fausses, parce qu'il n'existe point de cause pouvant faire que son imagination soit flottante. Voir à ce sujet la scolie de la proposition 44. Si fortement donc qu'on voudra supposer qu'un homme adhère au faux, nous ne dirons jamais qu'il est certain. Car, par certitude, nous entendons quelque chose de positif. Voir proposition 43 et son scoli. Et non, la privation de doute. Et, par privation de certitude, nous entendons la fausseté. Mais pour expliquer plus amplement la proposition précédente, il reste quelques avertissements à donner. Il reste ensuite à répondre aux objections qui peuvent être opposées à cette doctrine qui est la nôtre. Et enfin, pour écarter tout scrupule, j'ai cru qu'il valait la peine d'indiquer les pratiques de cette doctrine. Je dis certains avantages, car les principaux se connaîtront mieux par ce que nous dirons dans la cinquième partie. Je commence donc par le premier point et j'avertis les lecteurs qu'ils aient à distinguer soigneusement entre une conception de l'âme et les images des choses que nous imaginons. Il est nécessaire aussi qu'ils distinguent entre les idées et les mots par lesquels nous désignons les choses. Parce que, en effet, beaucoup d'hommes ou bien confondent entièrement ces trois choses, les images, les mots et les idées, ou bien ne les distingue pas avec assez de soin, ou enfin n'apporte pas à cette distinction assez de prudence, ils ont ignoré complètement cette doctrine de la volonté dont la connaissance est tout à fait indispensable tant pour la spéculation que pour la sage ordonnance de la vie. Ceux qui, en effet, font consister les idées dans les images qui se forment en nous par la rencontre des corps, se persuadent que les idées des choses, à la ressemblance desquelles nous ne pouvons former aucune image, des idées, mais seulement des fictions que nous forgeons par le libre arbitre de la volonté. Ils regardent donc les idées comme des peintures muettes sur un panneau, et l'esprit occupé par ce préjugé ne voit pas qu'une idée en tant qu'elle est idée enveloppe une affirmation ou une négation. Pour ceux qui confondent les mots avec l'idée ou avec l'affirmation elle-même qu'enveloppe l'idée, ils croient qu'ils peuvent vouloir contrairement à leurs sentiments quand, en parole seulement, ils affirment ou nient quelque chose contriment. Il sera facile cependant de rejeter ces préjugés, pourvu qu'on prenne garde à la nature de la pensée, laquelle n'enveloppe en aucune façon le concept de l'étendue, et que l'on connaisse ainsi clairement que l'idée, puisqu'elle est un mot, ne consiste ni dans l'image de quelque chose, ni dans des mots. L'essence des mots, en effet, et des images, est constituée par les seuls mouvements corporels qui n'enveloppent en aucune façon le concept de la pensée. Ces brefs avertissements à ce sujet suffiront. Je passe donc aux objections susvisées. La première est qu'on croit établi que la volonté s'étend plus loin que l'entendement et est ainsi différente de lui. La raison pourquoi l'on pense que la volonté s'étend plus loin que l'entendement, c'est qu'on dit savoir d'expérience qu'on n'a pas besoin d'une faculté d'assentir, c'est-à-dire d'affirmer ou de nier, plus grande que celle que nous avons, pour assentir à une infinité de choses que nous ne percevons pas, tandis qu'on aurait besoin d'une faculté plus grande de connaître. La volonté se distingue donc de l'entendement en ce qu'il est fini, tandis qu'elle est infinie. On peut, deuxièmement, nous objecter que s'il est une chose qui semble clairement enseignée par l'expérience, c'est que nous ne pouvons suspendre notre jugement de façon à ne pas assentir aux choses perçues par nous. Et cela est confirmé par ce fait que nul n'est dit se tromper en tant qu'il perçoit quelque chose, mais seulement en tant qu'il donne ou refuse son assentiment. Celui qui, par exemple, forge un cheval ailé, n'accorde pas pour cela qu'il existe un cheval ailé, c'est-à-dire qu'il ne se trompe pas pour cela, à moins qu'il n'accorde en même temps qu'il existe un cheval ailé. L'expérience ne semble donc rien enseigner plus clairement sinon que la volonté, c'est-à-dire la faculté d'assentir, est distincte de la faculté de connaître. On peut, troisièmement, objecter qu'une affirmation ne semble pas contenir plus de réalité qu'une autre, c'est-à-dire nous ne semblons pas avoir besoin d'un pouvoir plus grand pour affirmer que ce qui est vrai est vrai, que pour affirmer que quelque chose qui est faux est vrai. Tandis qu'au contraire, nous percevons qu'une idée a plus de réalité ou de perfection qu'une autre, autant les objets l'emportent les uns sur les autres, autant aussi leurs idées sont plus parfaites les unes que les autres. Par là encore, une différence semble être établie entre la volonté et l'entendement. Quatrièmement, on peut objecter que, si l'homme n'opère point par la liberté de sa volonté, qu'arrivera-t-il au cas qu'il soit en équilibre comme l'âne de Buridan? Périra-t-il de faim et de soif? Si je l'accorde, je paraîtrai concevoir un âne ou une figure d'homme inanimé, et non un homme. Si je le nie, c'est donc qu'il se déterminera lui-même, et conséquemment, à la faculté d'aller et de faire tout ce qu'il veut. Peut-être y a-t-il encore d'autres objections possibles. Comme toutefois je ne suis pas tenu d'insérer ici les rêveries de chacun, je ne prendrai soin de répondre qu'à ces quatre objections, et je le ferai le plus brièvement possible. À l'égard de la première, j'accorde que la volonté s'étend plus loin que l'entendement, si par entendement on entend seulement les idées claires et distinctes. Mais je nie que la volonté s'étende plus loin que les perceptions, autrement dit la faculté de concevoir, et en vérité, je ne vois pas pourquoi la faculté de vouloir devrait être infinie plutôt que celle de sentir. Tout comme, en effet, par la même faculté de vouloir, nous pouvons affirmer une infinité de choses. L'une après l'autre, toutefois, car nous n'en pouvons affirmer à la fois une infinité. Nous pouvons aussi, par la même faculté de sentir, sentir ou percevoir, une infinité de corps, l'un après l'autre, bien entendu. Dira-t-on qu'il y a une infinité de choses que nous ne pouvons percevoir? Je réplique. Ces choses-là, nous ne pouvons les saisir par aucune pensée et conséquemment par aucune faculté de vouloir. Mais, insistera-t-on, si Dieu voulait faire que nous les perçussions aussi, il devrait nous donner, certes, une plus grande faculté de percevoir, mais non une plus grande faculté de vouloir que celle qu'il nous a donnée. Ce qui revient à dire, si Dieu voulait faire que nous connussions une infinité d'autres êtres, il serait nécessaire, certes, qu'il nous donnât un entendement plus grand que celui qu'il nous a donné, afin d'embrasser cette infinité, mais non une idée plus générale de l'être. Car nous avons montré que la volonté est un être général, en d'autres termes, une idée par laquelle nous expliquons toute l'évolution singulière, c'est-à-dire ce qui est commun à toutes. Puis donc que l'on croit que cette idée commune ou générale de toute l'évolution est une faculté, il n'y a pas le moins du monde à s'étonner que l'on dise que cette faculté s'étend à l'infini au-delà des limites de l'entendement. Le général, en effet, se dit également d'un et de plusieurs individus et d'une infinité. Je réponds en niant que nous ayons un libre pouvoir de suspendre le jugement. Quand nous disons que quelqu'un suspend son jugement, nous ne disons rien d'autre, sinon qu'il voit qu'il ne perçoit pas la chose adéquatement. La suspension du jugement est donc en réalité une perception et non une libre volonté. Pour le faire mieux connaître, concevons un enfant qui imagine un cheval ailé et n'imagine rien d'autre. Puisque cette imagination enveloppe l'existence du cheval, corollaire de la proposition 17, et que l'enfant ne perçoit rien qui exclut l'existence du cheval, il considérera nécessairement le cheval comme présent et ne pourra douter de son existence, encore qu'il n'en soit pas certain. Nous éprouvons cela tous les jours dans le sommeil, et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui croit, durant qu'il rêve, avoir le libre pouvoir de suspendre son jugement sur ce qu'il rêve et de faire qu'il ne rêve pas ce qu'il rêve qu'il voit. Et néanmoins, il arrive que, même dans le sommeil, nous suspendions notre jugement. C'est à savoir, quand nous rêvons que nous rêvons. J'accorde maintenant que nul ne se trompe en tant qu'il perçoit, c'est-à-dire que les imaginations de l'âme, considérées en elles-mêmes, n'enveloppent aucune sorte d'erreur. Voir Scoli de la proposition 17. Mais je nie qu'un homme n'affirme rien en tant qu'il perçoit. Qu'est-ce donc, en effet, que percevoir un cheval ailé, sinon affirmer d'un cheval des ailes? Si l'âme, en dehors du cheval ailé, ne percevait rien d'autre, elle le considérerait comme lui étant présent, et n'aurait aucun motif de douter de son existence, et aucune faculté de ne pas assentir, à moins que l'imagination du cheval ailé ne soit jointe à une idée excluant l'existence de ce même cheval, ou que l'âme ne perçoive que l'idée qu'elle a du cheval est inadéquate, et alors, ou bien elle niera nécessairement l'existence de ce cheval, ou bien elle en doutera nécessairement. Par là, je pense avoir donné d'avance ma réponse à la troisième objection, que la volonté est quelque chose de général qui se joint à toutes les idées et signifie seulement ce qui est commun à toutes. Autrement dit, quelle est l'affirmation dont l'essence adéquate ainsi conçue abstraitement doit, pour cette raison, être en chaque idée, et à cet égard seulement, est la même dans toutes. Mais non en tant qu'on la considère comme constituant l'essence de l'idée, car, en ce sens, les affirmations singulières diffèrent entre elles autant que les idées elles-mêmes. Par exemple, l'affirmation qu'enveloppe l'idée du cercle diffère de celle qu'enveloppe l'idée du triangle, autant que l'idée du cercle de l'idée du triangle. Pour poursuivre, je nie absolument que nous ayons besoin d'une égale puissance de pensée pour affirmer que ce qui est vrai est vrai, que pour affirmer que ce qui est faux est vrai. Car ces deux affirmations, si on a égard à la pensée, soutiennent le même rapport l'une avec l'autre que l'être et le non-être. N'y ayant dans les idées rien de positif qui constitue la forme de la fausseté. Voir proposition 35 avec son scoli et le scoli de la proposition 47. Il convient donc de noter ici surtout que nous nous trompons facilement quand nous confondons les notions générales avec les singulières, les êtres de raison et les abstractions avec le réel. Quant à la quatrième objection, enfin, j'accorde parfaitement qu'un homme placé dans un tel équilibre, c'est-à-dire ne percevant rien d'autre que la faim et la soif, tel aliment et telle boisson également distants de lui, périra de faim et de soif. Me demande-t-on si un tel homme ne doit pas être estimé un âne plutôt qu'un homme? Je dis que je n'en sais rien, pas plus que je ne sais en quelle estime l'on doit tenir un homme qui se pend, les enfants, les stupides, les démons. Il ne reste plus qu'à indiquer combien la connaissance de cette doctrine est utile dans la vie, ce que nous verrons aisément par ce qui précède. Premièrement, elle est utile en ce qu'elle nous apprend que nous agissons par le seul geste de Dieu et participant de la nature divine, et cela d'autant plus que nous faisons des actions plus parfaites et connaissons Dieu davantage et encore davantage. Cette doctrine, donc, outre qu'elle rend l'âme tranquille à tous égards, a encore l'avantage qu'elle nous enseigne en quoi consiste notre plus haute félicité ou béatitude, à savoir dans la seule connaissance de Dieu, par où nous sommes induits à faire seulement les actions que conseillent l'amour et la piété, par où nous connaissons clairement combien sont éloignés de l'appréciation vraie de la vertu ceux qui, pour leur vertu et leurs actions les meilleures, attendent de Dieu une suprême récompense, ainsi que pour la plus dure servitude, comme si la vertu même et le service de Dieu n'étaient pas la félicité et la souveraine liberté. Deuxièmement, elle est en ce qu'elle enseigne comment nous devons nous comporter à l'égard des choses de fortune, c'est-à-dire qui ne sont pas en notre pouvoir, en d'autres termes, à l'égard des choses qui ne suivent pas de notre nature, à savoir attendre et supporter, avec une âme égale, l'une et l'autre face de la fortune, toutes choses, suivant du décret éternel de Dieu, avec la même nécessité qu'il suit de l'essence du triangle, que ces trois angles sont égaux à deux droits. Troisièmement, cette doctrine est utile à la vie sociale en ce qu'elle enseigne à n'avoir en haine, à ne mépriser personne, à ne tourner personne en dérision, à n'avoir de colère contre personne, à ne porter envie à personne. En ce qu'elle enseigne encore, à chacun à être content de ce qu'il a, et à aider son prochain, non par une pitié de femme, par partialité ni par superstition, mais sous la seule conduite de la raison, c'est-à-dire suivant que le temps et la conjoncture le demandent, ainsi que je le montrerai dans la quatrième partie. Quatrièmement, cette doctrine est utile encore grandement à la société commune en ce qu'elle enseigne la condition suivant laquelle les citoyens doivent être gouvernés et dirigés, et cela non pour qu'ils soient esclaves, mais pour qu'ils fassent librement ce qui est le meilleur. J'ai achevé par là ce que j'avais résolu d'indiquer dans ce scoli, et je mets fin ici à cette deuxième partie, dans laquelle je crois avoir expliqué la nature de l'âme humaine et ses propriétés assez amplement, et autant que la difficulté de la matière le permet, assez clairement. Dans laquelle je crois aussi avoir donné un exposé duquel se peuvent tirer beaucoup de belles conclusions, utiles au plus haut point et nécessaires à connaître, ainsi qu'il sera établi en partie dans ce qui va suivre. Fin de la deuxième partie.